I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou, c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux, je reçois un mec qui me parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je suis avec Cyril Benzaken, je prononce bien ?
Cyril Benzaken.
Benzaken, pardon.
Y'a pas de souci.
Est-ce que tu peux te présenter, Cyril ?
Alors, je suis sportif de haut niveau, en fait champion du monde de kickboxing, plusieurs fois, quatre fois exactement. Et parallèlement, je suis chef d'entreprise où en fait j'ai une activité de producteur d'événements. Et encore à côté de ça, en ce moment, je soutiens une association qui s'appelle Movember.
Est-ce que tu peux me parler un peu de Movember ?
Oui, alors Movember, en fait, pourquoi on se retrouve aujourd'hui en novembre ? C'est parce que tout simplement Movember, c'est la contraction de moustache et de novembre. Alors nos auditrices et nos auditeurs ne le voient pas, mais en ce moment j'ai une moustache toute fraîche.
Une belle moustache.
Une belle moustache, merci de me rassurer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de la porter tout au long de l'année. Et donc en fait Movember, c'est ça, c'est la contraction de moustache et de novembre. En fait, l'idée, c'est de venir en soutien à toute une communauté masculine qui souffre, donc qui regroupe différents types d'hommes. En fait, tu vois, les hommes qui souffrent de maladies mentales, ceux qui se suicident, il y a également les maladies comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules, et tous ces traumatismes qui touchent l'homme, eh bien Movember les soutient au travers de tout un tas d'actions finalement. Et porter la moustache, c'est la première manière de se retrouver, de se regrouper entre hommes et d'avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, au-delà des actions qu'on peut avoir plus pragmatiques.
Est-ce que c'est la première année où tu es ambassadeur Movember ?
Non, j'étais ambassadeur déjà l'année passée, où ça s'est très bien passé et où en fait on a animé un bootcamp, ou comment je pourrais dire, une masterclass de kickboxing. Et ça a été l'occasion en fait de regrouper tout un tas d'hommes pour faire du sport, donc se retrouver autour d'un événement plutôt bien-être et en même temps de les informer de ce qu'était Movember pour ceux qui ne le savaient pas. Et en même temps, ceux qui le souhaitaient ont pu se faire tailler la moustache. C'était un événement tout en un.
Super. Et donc, t'animes un événement ce 24 novembre, c'est ça ?
Et selon le même principe, en fait, le 24 novembre là, de ce mois-ci, le 24 novembre, en fait, ça peut être que de ce mois-ci, finalement.
Tout à fait.
On va faire une initiation au kickboxing pour soutenir Movember. Et donc, ça va être la même articulée autour du même axe que l'an passé que je viens de te décrire.
Et donc, si vous souhaitez venir voir cette animation, il y aura les liens dans la description du podcast pour vous rendre à cette masterclass de Cyril. Cyril, je vais te poser une question qui est la première question que je pose à tous mes invités, qui peut parfois prendre au dépourvu parce qu'elle est très vaste.
D'accord.
La question, c'est: qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ?
Être un homme, pour moi, être un homme, pour moi, c'est un peu comme si tu devais me dire c'est quoi la valeur qui m'est la plus chère dans la boxe, c'est l'engagement. Et pour moi, être un homme, ça veut dire tenir ses engagements. Tu sais, quand je suis sur le ring, je suis face à un adversaire et je dois lui faire face, je peux pas reculer, je peux pas tourner le dos. Et être un homme, c'est faire face à ses responsabilités. Être un homme, c'est ça. C'est faire face à ses responsabilités et ne pas tourner le dos quand c'est difficile et toujours aller de l'avant.
Tu penses qu'elle te vient d'où cette valeur de l'engagement ? Est-ce que c'est ton père, ta mère, ton environnement familial qui te l'ont transmise à la base ?
Alors, à l'origine, bien sûr, il y a l'environnement familial, c'est culturel, où on t'apprend des principes. Voilà, quand tu t'engages, tu fais face à tes responsabilités, comme je te le disais. Et le ring me l'a rappelé encore plus, parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la valeur qui fait le plus écho par rapport à mon histoire. J'ai envie de te dire, tu vois, il y a plein de sports créent des sportifs. La boxe a fait de moi un homme au travers de cette valeur, tu vois.
Comment t'es arrivé à la boxe à la base ? T'as commencé assez jeune, il me semble. À l'adolescence?
Ouais, relativement. Voilà, vers 13-14 ans. Et bah écoute, en fait, j'étais pas particulièrement sportif, hein, un petit peu. En tout cas, quelques années plus tôt, j'étais pas du tout sportif. Mais là, je commençais à être un peu sportif et je voulais découvrir un sport de combat. Et avec des copains, mon cousin, il m'a dit il y a un club de boxe qui a ouvert pas loin. Et du coup, on s'est rendu dans ce club et la passion, elle est venue assez rapidement.
Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu te retrouves à faire un sport de combat? En fait, c'est un sport qui est assez spécifique parce qu'il est à la fois collectif et individuel. Mm-hmm. Et puis, il y a l'aspect voilà, combat, quoi. Tu marques pas des buts, tu cours pas sur un terrain, tu te bats physiquement contre quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu montes sur un ring, t'apprends des coups, etc.?
Alors, en fait, les premières fois où tu montes sur le ring, tu ressens énormément de choses. Déjà, avant d'arriver sur le ring, il y a beaucoup d'appréhension, t'as beaucoup de craintes, t'as beaucoup de stress. Et après, même si c'est un sport de combat, ça reste un sport. Et du coup, bah, avec ce qui va dans le sport, c'est la compétition. Et du coup, on est, en tout cas dans mon cas, je suis davantage, si tu veux, dans l'esprit de compétition, même si je mets des coups à mon adversaire et que je le touche, pour gagner, que dans l'esprit de lui faire mal à tout prix, de le détruire, comme on peut des fois un peu le voir, parce qu'on fait un peu de marketing aussi pour créer de l'engouement autour d'un combat, mais c'est avant tout sportif.
Ça te vient d'où cet esprit de compétition, tu penses ?
Cet esprit de compétition, en fait, il me vient, je pense que c'est une revanche sur l'enfance, puisque quand j'étais beaucoup plus jeune, donc je sais pas avant mes 11 ans, j'étais plutôt en surpoids et du coup bah j'étais pas pris au sérieux, tu vois, on me prenait pas au sérieux quand je faisais pour un tas de choses, tu vois, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, dans plein de domaines. Et du coup bah en fait en commençant la boxe, j'ai trouvé un autre exutoire que faire le guignol. Comme tous les petits gros, j'aimais bien faire des blagues.
Ok, t'étais un petit marrant.
J'étais un petit marrant. Bah, j'essayais de composer avec ce que j'avais. Et donc, je me débrouillais pas trop mal comme ça. Et donc, après, bref, j'ai commencé la boxe et c'est devenu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire maintenant, il faut que je sois compétiteur. Et tout ce que je fais en dehors du ring, partout, il faut que ça soit le top.
Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a commencé à changer et que du coup t'avais... Alors je pense que de base si t'es quelqu'un de marrant tu restes marrant, t'aimes bien faire des blagues, c'est a priori ça bouge pas, mais t'as plus que ça, on va dire, t'as d'autres atouts à mettre en avant. Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a changé, celui des filles ou celui des garçons, et que bah t'étais plus le petit gros marrant mais t'étais un autre type de mec?
Alors, le côté marrant est quand même parti un peu, parce que tu sais, finalement, en grandissant, tu t'as des nouveaux codes qui arrivent, et en fait, le côté enfant un peu libre et qui s'en fout, qui va vanner, qui va rigoler, avec les années, je l'ai perdu, tu vois, ce côté, parce que je l'ai structuré plutôt un peu trop sérieux des fois. Bon, alors j'essaye de retrouver un peu de piment de temps en temps, mais c'est pas facile. Et comment dire. J'ai oublié la question.
Quand le regard des autres change sur toi et que du coup tu n'es plus. Alors,
en fait, si tu veux, je me souviens encore, je crois que j'étais au collège ou au lycée, où j'avais une super pote qui me dit un jour mais pourquoi tu parles comme ça? Enfin, elle sentait que je m'appliquais quand je parlais, tu vois, quand je construisais mes phrases, dans ma manière d'articuler mes phrases, quoi. Et elle trouvait ça étrange parce que c'était quasiment du jour au lendemain. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais commencé à anticiper qu'il allait falloir que je fasse une bonne présentation parce que je voulais devenir champion. Et donc, pour être un bon ambassadeur, il fallait que je sache bien construire mes phrases. Et si tu les construis mal la journée, il n'y a pas de raison que je les construise bien le soir après. Donc, il fallait que je fasse l'effort de commencer à m'entraîner. Et donc, c'était plus de la surprise, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, pourquoi tu parles comme ça, etc. Après, le regard, quand j'ai commencé à avoir des premiers titres, des premiers trucs comme ça, en fait, il m'a pas vraiment affecté parce que j'ai la chance d'être resté proche de mes amis et de ma famille qui étaient là depuis le début. Qui, si je fais mal la vaisselle ou si je fais une bêtise, je suis tout de suite, on me rappelle à l'ordre comme au même titre que quand j'avais 18 ans, tu vois. Donc je suis assez terre à terre par rapport à ça et je le vois pas trop en fait le regard des autres.
Ok, tu gardes les pieds sur terre.
Voilà, pour moi, on est tous, on a deux bras, deux jambes. C'est ce que je me dis avant chaque combat. Il a deux bras, deux jambes, donc pas besoin d'avoir peur de lui. Et ça me permet de garder les pieds sur terre.
Est-ce que tu as eu une figure de mentor quand tu as commencé la boxe ? Je sais que l'autre sportif de haut niveau qui est venu dans ce podcast, Camille Lacour, il a un mentor qui l'a mis à la natation et qui lui a tout appris pendant des années avant de se séparer de lui professionnellement. Et pour lui, c'est une figure masculine très importante dans sa vie, au moins autant que son père, je dirais. Est-ce que tu as eu une figure de mentor comme ça qui t'a suivi pendant des années ?
Alors bien sûr, en fait, bah tout simplement, il y a eu le premier entraîneur que j'ai eu qui m'a transmis cette passion, parce que je sais pas si des fois je me pose la question, est-ce que j'ai été passionné par la boxe ou est-ce que j'ai été passionné par ce champion et il m'a inspiré et il m'a donné envie de faire aussi une carrière. Et je crois que c'est plutôt la deuxième option. Et donc, bah, c'est lui, Aurélien Duhart, qui était donc un ancien champion, qui m'a enseigné la boxe pendant mes premières années et avec qui je continue d'entretenir un bon rapport. On se voit, etc. Et bah, il m'a inspiré. Voilà.
Est-ce que tu penses qu'il t'a transmis des... Est-ce qu'il y avait un rôle de transmission de valeurs personnelles au-delà de l'entraînement sportif un peu basique ?
Bah, c'est-à-dire que, en fait, c'était quelqu'un avec qui, tu sais, quand... J'avais 13-14 ans, et dès que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, au bout de quelques mois, j'ai essayé d'être le premier arrivé dans la salle et le dernier à partir. Et donc du coup, il y avait cette envie chez moi de me retrouver avec lui pour discuter, pour essayer de le comprendre, parce que je voulais être comme lui. Donc forcément, j'arrive pas à me souvenir d'exemples concrets, mais forcément, il y avait de la transmission au-delà du sport. Et ça, quotidiennement, donc il m'a forcément impacté dans ma vie d'homme aussi que dans ma vie de sportif.
Tu dirais que c'est quoi les valeurs de ton sport ?
Bah, je vais me répéter, je vais te dire la valeur de l'engagement qui est vraiment la principale valeur sur le ring. Après, tu as tout un tas de valeurs, mais que tu retrouves dans d'autres sports comme la rigueur, le travail, parce que c'est un sport méticuleux et il n'y a que du travail pour arriver à des résultats.
Et comment ça se passe concrètement à un entraînement de boxe du coup ? À quoi, en fait, j'essaye de comprendre à quoi ressemble ton quotidien un peu atypique de jeune homme qui se lance dans une pratique sportive pour être champion, comme tu l'as dit. T'as l'air d'avoir décidé assez tôt que tu voulais être champion et t'allais tout faire pour y arriver. À quoi ça ressemble ton quotidien ?
Alors mon quotidien aujourd'hui, c'est de 2 à 3 entraînements dans la journée. Des rendez-vous ou des interviews et je bosse donc en fait à côté sur mon entreprise comme je t'ai dit que j'ai créé. Après plus tôt c'était au lieu de bosser et des rendez-vous c'était j'allais à l'université et je m'entraînais, donc c'est beaucoup d'entraînement et à côté des rendez-vous etc quoi.
Il me semble que t'as réussi à faire un bac+5 en plus de ta carrière de sportif, ce qui est beaucoup, ça fait beaucoup d'un coup. Comment t'as fait pour concilier les deux et pourquoi t'as décidé de quand même de pas te donner à 100% au sport, mais d'avoir aussi un diplôme universitaire et de monter ta boîte, etc.
Alors, j'ai eu la chance d'être poussé par mes parents. En fait, ma mère, quand j'étais, je crois, au bac ou vers cette période-là, qui m'a dit « Ouais, si tu veux faire de la compétition, il faut que tu poursuives tes études. » Et donc, du coup, j'ai poursuivi mes études. Et en fait, ce côté compétiteur, tu vois, que la boxe m'a donné, c'est en tout cas cet aspect de ma personnalité, et ben, je l'ai retrouvé dans les études et ça m'a donné envie de faire des grandes études, d'aller à Dauphine, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est plus le boxeur qui est devenu étudiant que l'étudiant qui est devenu boxeur, finalement, parce que j'étais pas très bon élève avant d'avoir commencé la boxe.
Est-ce que t'étais un peu... Chez Camille Lacour, il avait un vrai côté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini par ne plus travailler avec son mentor, parce qu'il avait un côté un peu tête brûlée, un peu fêtard, surtout avec... Et il en parle sans problème, tu vois, avec à la fois la gloire qui arrive, la reconnaissance sociale, une forme de célébrité, les filles, les soirées, etc. Et du coup, il était moins rigoureux sur ses entraînements. Il était devenu plus assez rigoureux pour son mentor qui lui a dit « Bah, je bosse plus avec toi parce qu'en fait, tu deviens un petit con et moi, j'ai pas envie de bosser avec des petits cons. » Est-ce que t'avais aussi ce côté concilier une vie d'étudiant qui a peut-être envie de, de se cramer un peu la tête, ou est-ce que t'étais plus sage ?
Alors écoute, ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, quand... Donc moi je m'entraînais en banlieue, j'étais avant dans un IUT en Assos et après je découvre Paris Dauphine, un peu l'univers et donc tous les jeudis soirs, les soirées étudiantes, on en parle, etc. Et en fait donc j'ai eu un côté difficile parce que justement j'ai jamais cédé à cette double vie. Alors je sais pas si j'aurai une deuxième enfance à plus de 40 ans, mais je n'ai jamais pris une goutte d'alcool ou jamais raté un entraînement pour une fille, pour une fête, pour quoi que ce soit. Je me suis toujours gardé ma ligne de conduite en me disant tu veux être champion, tu veux le rester, il faut que tu fasses tout pour ça, et tout ça passe par des sacrifices, et c'est ces sacrifices là donc j'ai toujours été constant dans ma rigueur.
Est-ce que tu dirais que...
Pas très fun, hein?
Non, mais c'est intéressant aussi parce que, enfin, moi personnellement, déjà, je suis pas du tout sportive, donc je suis globalement impressionnée par l'ensemble de ce que tu fais dans la vie parce que vraiment, je cours 100 mètres, je suis au bout de ma vie. Et en plus, d'avoir cette rigueur et cette discipline aussi jeune et d'avoir un objectif clair et de dire, bon, bah, l'objectif, c'est d'être champion et tant pis, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. C'est quelque chose qui est, je pense, rare et j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'à voilà, 17-18 piges, quand t'arrives à l'IUT, t'as déjà cette rigueur mentale qui te permet de suivre l'autodiscipline que tu t'infliges, quoi.
C'est le rêve, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, bah, t'as raison, je me rappelle, j'ai fait qu'un week-end d'intégration, au Coca, sûrement, enfin, où je buvais pas, tu vois. Et je me souviens très bien de l'IUT de Sceaux, où on avait fait ce week-end d'intégration. Et j'étais pas du tout champion, moi. J'étais en compétition, j'étais débutant. Ça faisait des années que je faisais de la boxe, mais j'ai démarré la compétition à 18 ans. Donc c'était plus ou moins l'époque de l'IUT. Et en fait, si tu veux, dans ma tête, dans ma vision des choses, j'allais devenir champion. J'en rêvais, je le vivais intérieurement, on va dire, en méditation tous les jours. Et pour y arriver, eh ben, il n'y avait qu'une seule possibilité. Eh ben, c'était le travail, la rigueur. Et ça passait par si tu veux, se contenir dans les excès, faire attention à pas. Enfin, pour moi, si tu veux, l'alcool, tout ce qui est la fête qui pourrait nuire à mon hygiène de vie était un frein pour ma carrière. Et je ne voulais pas mettre de frein. Donc, ça m'a permis de garder une rigueur.
Et avec le recul, t'as pas l'air d'avoir de regrets. Tu te dis pas, j'ai perdu ma jeunesse.
Non, finalement, je me dis pas ça, parce que aujourd'hui, par contre, tu vois, avec l'âge. Alors aujourd'hui, par contre, tous les soirs, c'est petite bière. Non, non. Aujourd'hui, par contre, c'est. On reste sur du cool, hein. Mais tu vois, je me suis construit au travers de cette discipline. Et finalement, je m'autorise, tu vois, bah, avec la notoriété, comme tu disais, t'as plein de petits événements, etc. Et j'arrive à composer avec l'entraînement, ou des fois à me dire, bon, cet événement, il est important, c'est pas grave, peut-être que ça vaut le coup professionnellement que j'y aille, même si je vais rater un entraînement, je vais pas rater ma vie. Alors que c'est drôle, parce que mon frère m'en parlait il y a pas longtemps, et par rapport au, tu vois, à cet entraînement, et je lui disais, donc j'avais 14-15 ans, je lui disais, ouais, j'ai pas envie de partir en vacances cet été. Mais il me disait, pourquoi? Je disais, mais parce que je vais perdre mon temps. Il faut que je m'entraîne. C'était il faut, tu vois. C'était vraiment. Parce que si je le fais pas, je vais pas réussir à mes fins. Enfin bon. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, donc, je suis plus détendu quand même. Même si, bon, c'est beaucoup de salade verte dans mon assiette et quasiment que de l'eau pétillante pour mettre un peu de fun. Mais...
Vive le fun de l'eau avec des bulles.
Voilà.
Comment tu construis, en fait, t'as forcément un rapport au corps qui est très spécifique, puisque ton corps est ton outil de travail, et donc t'as l'air d'avoir une discipline très tight, parce que voilà, il y a des bulles dans l'eau, c'est le petit grain de folie, et je me dis que ça doit être compliqué à l'adolescence, à un moment où ton corps est en évolution constante, de maintenir une discipline. Comment tu penses que t'as construit ton rapport au corps comme un outil ?
Très très dur, effectivement, parce que quand t'es adolescent, ton corps évolue, bah, par exemple, t'avais chopé de l'acné, t'avais musculairement, tu te développes, t'as en même temps, alors j'imagine, on va parler pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'autant plus dur parce que nous, on n'avait pas ces référentiels que sont les réseaux sociaux avec une image de ben, j'aimerais ben, pour une nana avoir les fesses comme ça, la poitrine comme ça, et du coup, bah, c'est triste parce que ça les enferme dans des cases, les pauvres filles qui sont pas. Comme elles voient leurs idoles, de même que le petit garçon qui va voir un gars dont il est fan avec des tablettes de chocolat striées et qui se dit mais comment moi j'ai pas là ça, et ben tout ça se construit. Et en fait, je me souviens encore que quand j'ai commencé à m'investir à fond dans le sport, mon père avait peur, en fait, parce que, ben, je te dis, lui, il me disait, mais tu sors pas, moi, à ton âge, j'aimais bien aller voir des filles. Il se comprenait pas, quoi. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Et en fait, j'ai vu un espèce de... Ouais, c'était un psychologue. et qui m'avait expliqué qu'en fin de compte, ce qui est difficile à pas tomber dedans, c'est quand tu commences à rentrer dans le sport, et ben forcément, et ben il y a une part de narcissisme qui se développe parce que tu vois l'évolution de ton corps. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est de se dire, est-ce que est-ce que je kiffe le corps que j'ai parce que je me kiffe et donc je suis dans un délire un peu ego trip, ou est-ce que je suis plus pragmatique et je me dis j'ai besoin de mon corps, c'est mon outil de travail, il faut qu'il soit au top. Et bon, aujourd'hui je suis plus dans une démarche outil de travail. Après, comme en fait je te le disais, je sais pas si c'était clair, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment en surpoids et ça laisse des traces, tu vois, quand t'as vécu la première partie de ton, enfin non, jusqu'à l'adolescence, quoi, jusqu'à 12 ans en surpoids, bah ça laisse des marques parce que c'est un marqueur de confiance, le physique. C'est quand même le premier indicateur que tu as quand tu vois quelqu'un. Et donc, tu te sens jugé, tu te sens pas capable de faire plein de choses, enfin, du moins à l'époque. Et du coup, t'as plus envie de. Enfin, j'aimerais pas redevenir comme ça. Donc aujourd'hui, au-delà de l'outil de travail, je m'entretiens, je pense, on verra, mais quand j'arrêterai ma carrière, je pense que je m'entretiendrai peut-être moins, parce que j'aurais compris que ça sert à rien d'avoir des abdominaux, etc. Enfin, en dehors de. Enfin, quoique, on en reparlera.
Mais, on en refera un dans 10 ans pour voir.
Voilà. Mais tout ça pour te dire que le rapport au corps, il n'est pas évident, surtout pendant la période de l'adolescence.
Comment ça se passe quand t'es un petit mec en surpoids qui arrive dans un cadre sportif? Je sais qu'il y a plein de gens en surpoids qui ont du mal à se mettre au sport parce que déjà ils s'en pensent pas forcément capables et parce que y a le regard des autres où tu te dis ok, mon entraîneur il est hyper stock, hyper fit, moi je suis un petit gros, je vais pas avoir ma place là-dedans, et du coup c'est un cercle vicieux de j'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai peur du regard des autres si je fais du sport pour perdre du poids. Est-ce que c'est un truc qui aurait pu te freiner toi? Est-ce que ça t'a un peu freiné à un moment? Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives et que t'es encore un peu chubby quoi?
Alors en fait, j'ai la chance d'avoir toujours été un peu un rêveur. Et finalement, enfin la chance et la malchance, parce que ça m'empêche aussi de kiffer le moment présent. C'est-à-dire que je ne me regarde jamais dans l'état présent, mais dans l'état dans lequel je voudrais être. Du coup, quand je suis arrivé, pour donner un conseil en tout cas, pour dire comment moi ça m'a aidé, quand j'arrive dans une salle et que je suis fort et que voilà, je sens que je suis le moins athlétique de la bande, et ben je m'imagine comment j'ai envie de devenir et comment je vais les dépasser. Et du coup, ça m'a alimenté psychologiquement pour garder un rythme et au fur et à mesure des mois et des années dépasser mes potes quoi.
Et tu penses que le petit toi de 11 ans, il serait content de voir l'homme que t'es devenu?
Bon, il serait impressionné, je pense. Il serait content, je pense.
Comment ça se passe l'aspect compétition? Parce que donc au-delà de la pratique et de la discipline, il y a le moment où t'es vraiment là pour un titre. Comment t'abordes une compétition? Est-ce que t'as des trucs mentaux dans lesquels tu te mets pour être dans le bon état d'esprit, etc.?
Alors, en fait, pendant des années, de mes 14 ans, donc quand j'ai démarré, jusqu'à mes 24 ans, je m'enfermais dans ma chambre et pendant une heure par jour, je faisais des petits exercices. En fait, je pensais que je faisais un peu d'abdos, etc. pour être fit. Mais en fait, je faisais de la méditation. Je m'en suis rendu compte après en voyant des vidéos de développement personnel et où je me suis dit, mais l'ancrage, tout ça, c'est exactement ce que je faisais. Je me suis dit, ils ont cru qu'ils avaient inventé la lumière. Moi, je connaissais pas le mot, en fait, tu vois, mais c'était ce que je faisais. Et malheureusement, tu vois, aujourd'hui, je le fais moins parce que je me suis laissé prendre dans le cercle d'activité. Et aussi, il y a quand même un outil qu'il n'y avait pas de mes 14 à 25 ans, c'était le smartphone, tu vois. Et du coup, j'imagine que pour un jeune, avoir un smartphone avec tous les réseaux sociaux, on est tout le temps sollicité, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver avec lui-même, dans ses pensées, etc. Et ça, c'est, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est l'élément indispensable pour réussir dans un domaine, pour être créatif, pour développer, pour te recentrer, c'est d'arriver à se couper de tout et d'être avec soi-même pour se mettre dans ses pensées. Et pour ça, il faut savoir éloigner son portable, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans.
Est-ce que tu as déjà essayé les applications de méditation qui sont disponibles sur smartphone? Du coup, tu gardes ton smartphone pour avoir une appli qui te permet de méditer?
Bah oui, je vais casser tout le mythe que je suis en train de te raconter parce que, en fait, comme je te le dis, je suis rentré dans le système et finalement, alors c'est pas une application, c'est sur YouTube, mais maintenant, justement, pour me canaliser et me faire ma méditation, bah je mets méditation, respiration et hop. Et du coup, c'est mon téléphone qui me sert. Donc c'est aussi un outil qui peut aller dans le bon sens. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à retrouver la sérénité d'avant.
Je comprends. Tu mentionnais tout à l'heure que tu as parlé avec un psy de ton rapport au corps.
Ouais.
Y a relativement peu d'hommes qui vont chez un psy. Il y en a relativement peu comme invité de ce podcast. Donc ça m'intéresse toujours de creuser ce sujet. T'avais quel âge? Comment tu te retrouves chez le psy? Est-ce que c'est dans le cadre du sport ou est-ce que c'est en dehors?
Alors, en fait, j'en ai vu plusieurs fois. La première fois, c'était parce que je faisais des bêtises à l'école. Donc ça, c'était rien à raconter. Ça, c'était sur la côté un peu connerie d'enfance. Après, la deuxième fois, c'est mon père qui m'emmenait, mais c'était un rendez-vous unique. Et la troisième fois, en fait, là, pour le coup, ça a été répété. Et là, ça va peut-être davantage t'intéresser. C'est, si tu veux, en fait, j'ai pas eu des réussites sur tous mes combats. Il y a des combats que j'ai perdus où, finalement, j'ai perdu contre moi-même parce que c'est un adversaire qui était à ma hauteur. C'est juste moi qui ai eu des blocages psychologiques. Et du coup, pour les déverrouiller, ces blocages, je me suis dit, j'avais déjà vu des préparateurs mentaux. Peut-être que je vais aller voir un psy. Et du coup, je suis allé voir un psychologue du sport avec qui on a échangé. Que j'ai vu pendant un an, quoi, tu vois. Et ça m'a permis de voir un peu ma vision du sport autrement, de l'appréhender avec d'autres outils. Après, aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec les préparateurs mentaux qu'avec la psychologie, qu'avec un psychologue. Simplement, le préparateur mental, il a des exercices, tu vois, où il te fait bosser sur ton mental, alors que le psychologue, il va plus être dans une discussion ouverte et sans faire le cliché, oui, non, attends, tu vois, l'épisode de Bref, quoi.
Oui, je vois. Ça m'intéresse la deuxième occurrence parce que c'est ton père qui t'emmène chez le psy quand t'es ado, du coup.
Ouais.
Et ça, c'est hyper rare parce que pour le coup, j'ai déjà pas beaucoup d'invités qui ont été ou qui vont voir un psy, mais alors qui ont été emmenés ados par leur père parce que souvent, les darons sont pas beaucoup plus éduqués à prendre soin de leur santé mentale, tu vois. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiétaient parce que tu sortais pas et que t'étais trop. Il avait peur que tu sois trop dans le sport, c'est ça?
En fait, c'était un médecin du sport, psychologue. Enfin, il était mélangé. Il voulait comprendre. Il s'inquiétait parce que je m'enfermais, tu vois, quelque part. Je sortais pas beaucoup. Je sortais pas le soir. En fait, j'avais le droit d'aller à la boxe deux fois par semaine, mais j'avais fait acheter un sac de frappe, un punching ball que j'avais installé dans mon garage. Et tous les soirs, j'en faisais. Le week-end, il y avait des samedis soirs où j'en faisais. Enfin, tu vois, c'était. Et donc, il comprenait pas. Il disait, merde, mon fils, il est en train de disjoncter, là. Et du coup, il s'est inquiété sur ma santé mentale. Et il a eu raison, tu vois, parce que ce médecin nous a donné des pistes, tu vois, en nous expliquant attention aussi au narcissisme, à pas trop s'enfermer, etc., etc. Mais en même temps, tu vois, on en parle par rapport à Movember et c'est en ça que le sport est excellent parce que finalement, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui se suicident, 510 000 pour être exact. Et au travers du sport, c'est un moyen de faire sauter le verrou de quand t'es complexé, de quand t'es mal dans ta peau et aussi de te permettre de franchir des barrières sociales que t'oses pas, l'activité sportive, elle te le permet. Et donc, pour relier Movember avec tout ça, faire du sport, c'est un bon moyen aussi d'éduquer et de prendre soin de sa santé mentale.
Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans ton cours de boxe? Parce que donc on parle beaucoup dans ce podcast des relations, des amitiés masculines et des relations entre hommes en général, qui sont pas forcément toujours très bienveillantes. Ou parfois il y a un peu un truc de, on se dit pas vraiment les choses, on parle pas de nos émotions, on parle pas de notre vulnérabilité, on se tire un peu vers le bas, tu vois, on se tire dans les pattes plutôt que de dire vas-y, on va tous se tirer vers le haut en bon copain. Je sais que dans le sport, ça peut être à double tranchant. Il peut y avoir la compétition qui rentre en jeu, mais il peut y avoir aussi un truc très sain de on veut tous être le meilleur et on va jouer fair play, en fait. Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans tes cours de boxe, au-delà de ton entraîneur?
Alors, en fait, comme tu le dis, en fait, pendant l'entraînement, il y a deux choses. Si tu veux, quand on est dans le rapport, quand on boxe ensemble, il y a forcément un rapport de virilité et c'est un peu combat de coq, tu vois, tu sais, entre hommes. Et c'est là où il faut être fort. Enfin, où il faut être fort, où il faut être fin. Et comment dire, en tout cas, j'ai la chance, je pense, d'avoir un côté un peu féminin, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a laissé souvent entendre et en fait, donc ce côté, excuse-moi, féminin, et ben qui me permet d'être davantage à l'écoute que davantage dans moi je parle de trucs.
La boxe pour moi, elle est bien parce que, enfin, j'ai été bon. Parce que je suis d'abord dans l'observation et c'est parce que j'essaye de comprendre mon adversaire et que j'arrive à le lire que j'arrive à être plus fort. Et c'est pas parce que je vais parler plus fort que je vais taper plus fort. Je suis pas dans ce combat d'ego parce que si tu veux, pour en revenir à la virilité de la question de base, dans l'univers des sports de combat et donc de la boxe aussi, c'est vachement, pour beaucoup de boxeurs, il y a un combat. Le mec par exemple prend un coup, il va remettre l'autre en plus fort en disant non, c'est moi le plus fort, tu vois. Mm-hmm. Et il n'y a pas de construction derrière parce que c'est l'ego qui parle, tu vois, l'ego du mec qui veut dire j'ai entre guillemets, excusez-moi, des grosses couilles, c'est moi le bonhomme, quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas ça. Ça c'est de la bagarre, c'est de l'émotion et c'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Et c'est comme ça justement que je tire mon épingle du jeu dans pas mal de situations en profitant en fait de. C'est drôle à dire, de la vulnérabilité d'un mec qui veut montrer sa force, et ben j'arrive à marquer mes points. Mais du coup, dans les rapports entre hommes qu'on a avec, comment on appelle ça, à la salle, c'est des rapports en entraînement de un peu de coq, quoi, tu vois.
Tu disais qu'il y a un côté un peu chaud forcément dans la boxe, et que t'as un personnage un petit peu, ouais, qui est mis en scène, et que c'est des trucs que vous mettez en scène pour l'aspect marketing et pour, voilà, pour motiver les gens. Comment t'as abordé, toi, ce truc de... Bah, y a un petit travail d'acteur en plus de ton travail de sportif de base.
Alors, tu sais, j'ai pas trop... En fait, moi, j'ai juste essayé de je peux pas dire sublimer, mais d'accentuer mes traits. Plutôt que de les jouer, que de jouer quelque chose que je suis pas, tu vois, je suis de nature à la base relativement réservé et donc je parle pas trop aux gens que je connais pas ou difficilement, et bon, maintenant un peu mieux, mais quand j'étais justement enfant, je parlais pas à personne, tu vois. Dans les sports de combat, t'as beaucoup de trash talking, comme on dit, tu vois, où il y a de la provocation, etc. Et ça, c'est pas du tout mon identité, c'est pas du tout moi, donc j'ai jamais essayé de le faire. Je crois que même si j'essayerais, ben j'arriverais pas, ou je serais tellement mauvais qu'on me dirait tout de suite d'arrêter. Et du coup, en fait, si tu veux, j'essaye d'arriver avec un capital sympathie et plutôt dans un mood où c'est ouais, je fais un sport de combat, ouais, je fais de la boxe, on se met sur la gueule, mais j'y vais avec le sourire parce que moi j'aime ce que je fais et voilà. Donc tu vois, je peux jouer un petit peu sur ça, mais ça reste la réalité, tu vois.
Oui, c'est pas.
J'ai pas tellement marketé ma personnalité, enfin avec différence de la réalité, quoi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Comment ça fait, question de meuf qui s'est jamais battue dans sa vie, qu'est-ce que ça fait de se prendre des coups, de se prendre des coups qui font mal, qui peuvent même, ouais, causer des blessures et tout. Est-ce que les premières fois que tu te prends des coups, t'appréhendes, tu t'essayes d'esquiver, tu montes sur un ring en te disant ok, probablement qu'à un moment il va se passer, je vais me prendre un coup et je vais donner des coups. Comment tu l'appréhendes dans ta tête?
Alors, si tu veux, là tu parles du combat ou tu parles de l'entraînement? Parce que c'est très différent. Ah. Quand tu prends, en fait, parce qu'il y a des petits combats à l'entraînement. Mm-hmm. Mais si tu veux, c'est un autre monde. Il y a un monde énorme qui sépare le sparring, donc c'est le combat d'entraînement, du combat, du vrai combat. Parce que si tu veux, quand t'as l'entraînement, bon, tu prends des coups, etc., ça fait un peu peur, mais avec l'adrénaline, etc., tu fais abstraction, en fait, t'as mal après. Par contre, il n'y a pas une préparation vraiment mentale, tu vois, tu te dis pas, ce soir j'ai un petit peu,
Mais quand tu vas faire un combat, c'est très différent parce que c'est quelque chose qui est anticipé et c'est particulier parce que la boxe, c'est un effort court, tu vois. On parle de quelques rounds de 3 minutes ou de 2 minutes quand tu débutes. Et tu sais que tu vas t'entraîner pendant, par exemple, 4 mois pour un événement qui va durer 10 minutes où il y a un mec qui va être là pour te péter la gueule et il faut pas que tu le laisses te péter la gueule, il faut que toi tu gagnes. Donc forcément il y a une appréhension et je me souviens que le premier combat, j'arrive dans le gymnase, j'avais envie de me barrer, tu vois, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, je peux pas faire ça, c'est chaud. Mais c'est pas la peur des coups, c'est une crainte, tu vois, ça s'explique pas. Et après, en fait, c'est ce que je dis toujours, hein, le chemin le plus dur, c'est le chemin des vestiaires au ring. Une fois qu'on a passé les quatre cordes, on est passé à autre chose, ça y est, c'est parti. Le gong est, enfin, tout est lancé, tu vois. C'est vraiment ce passage-là qui est, en tout cas pour moi, je sais que c'est le moment où on me dit, ouais, Cyril, ça va être bientôt être à toi. Là, je sens, t'as le premier coup de tac, tac, tac. Généralement, quand je sais qui je boxe et que j'ai la tête de mon adversaire en tête. Alors ça, c'est récent parce que quand t'es amateur, tu sais pas qui va être ton adversaire. Donc là, t'as un premier coup de palpitant. T'as la pesée, donc c'est la traditionnelle pesée. Hop, là, t'as un petit coup de palpitant encore parce que tu le regardes. Tu vois, tu montes les gros yeux, tu fais... Bon, ils ne voient pas les auditeurs, mais bon, c'est un regard méchant. Ou un petit sourire, tu vois, pour garder le marketing. Et du coup, ça remonte. Et après, c'est quand t'as quelques minutes du combat parce que c'est de l'adrénaline, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline, en tout cas pour ma part, plus que de crainte. En tout cas, l'appréhension, c'est plus l'appréhension de mal faire que l'appréhension des coups.
Et tu disais que t'étais timide. Je pense que dans ce que tu racontes, ça ressemble beaucoup au trac avant de monter sur scène, tu vois. Il y a, alors, avec des coups en plus, parce qu'a priori sur scène, on pète la gueule de personne. Comment tu concilies le fait d'être plutôt de nature réservée et de jouer devant un public, d'avoir des fans, d'avoir une notoriété, etc.
C'est extrêmement drôle parce que je me suis rendu compte de ça il y a un an. En fait, enfin, il n'y a pas un an. En vrai, le premier plateau télé que je fais, je sors du truc et on me dit « Ah, trop bien, ça fait combien de temps tant que fait ?» Et moi, je me dis « Mais c'est la première fois. » Parce qu'ils m'ont vu, tu sais, au maquillage, tout réservé. Donc, je commence à me dire « Bon, bah écoute, je suis plus à l'aise, en fait, devant ces objectifs, etc. » Et l'an passé, en fait, on était au Palais des Congrès pour un événement et je devais monter sur scène avec des artistes beaucoup plus connus que moi, enfin, des artistes de people, tu vois, chanteurs et comédiens. Et je me dis, bon, je vais peut-être leur dire un petit mot avant de monter pour leur dire qui je suis, parce qu'ils vont me présenter. On était derrière les rideaux. C'était impossible pour moi d'aller les voir, de leur dire, oui, bonjour, en fait, c'est moi, Cyril, etc. Impossible pour moi d'aller leur parler. Et au moment où ils m'appellent, que je rentre sur scène, c'était mes cousins, quoi. Tu vois, j'étais, ouais, ça va. Hein. Et donc, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, la lumière, tous ces trucs-là, ça inhibe mon côté réservé. Et tant mieux.
Oui, tant mieux. Bah, sinon, ce serait compliqué.
Ouais, sinon, j'aurais pas fait ça. Mais enfin, ou j'aurais pas pu, en tout cas, jouer sur le côté image, quoi. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez du coaching spécifique pour ça? Comme tu commences à atteindre des titres nationaux, internationaux, etc. Donc, j'imagine que toi, il se trouve que, bonne surprise, finalement, t'es plutôt à l'aise sur scène. Mais ça doit pas être le cas de tout le monde. Est-ce que vous avez du coaching spécifique autour de, bah, tu vas représenter un peu la France quand même, ou tu vas représenter là d'où tu viens, etc. Et il faut bien le faire.
Alors, du coaching, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de enfin, en tout cas, l'État ou il n'y a pas de la fédération qui met en place des personnes pour accompagner les athlètes. En revanche, t'as des personnes avec qui je travaille qui, elles, me conseillent, m'apportent énormément parce qu'elles vont me dire, voilà, écoute, je pense que sur cet angle-là, il faudrait peut-être aborder ton histoire comme ceci, comme cela. Et en toute bienveillance, tu vois. Et en fait, donc oui, je suis un peu, enfin oui, je suis conseiller sur plus sur le c'est un mélange de fond et de forme, mais au début non. En fait, après c'est avec les moyens qu'en grandissant. Mais aujourd'hui, je crois pas, en tout cas peut-être dans d'autres sports où il y a plus de moyens, où ils sont accompagnés assez vite. Mais c'est généralement une équipe qui se crée avec l'athlète et où on travaille en harmonie tous ensemble pour la réussite. Et la réussite, en fait, elle passe par la performance sportive, mais elle passe aussi après par la réussite que tu vas avoir dans une tournée média ou dans d'autres critères d'image, quoi.
Du coup, tu passes des années à bosser et à te discipliner et à mettre un peu de côté tout ce qui est vie privée pour un objectif qui est jouer être champion. Et tu deviens champion, puisque t'es plusieurs fois champion du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ça y est, quoi? T'es devenu champion, ton objectif est atteint.
Et bah, c'est assez drôle parce que tu sais, quand tu l'as vécu pendant 15 ans dans ta chambre, il se passe pas grand chose finalement parce que tu l'as déjà vécu. Donc,
le pouvoir de la méditation.
Non, mais sans déconner, hein, parce que en fait, tu c'est fou, tu scénarises tellement la manière dont ça va se produire. Tu visualises que le jour où ça arrive, si t'es content, tu vois, j'étais super content. Mais si tu veux, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose qu'il fallait que j'atteigne. Et donc, je l'ai atteint. Maintenant, faut l'entretenir, faut continuer. Et en fait, je suis passionné. Donc, j'ai la tête dans le guidon. Moi, j'aime ce que je fais. Je suis pas en train de me dire, ouais, je suis champion du monde. Je veux continuer à boxer. Je veux continuer à produire de belles soirées pour mettre en avant mon sport. Et voilà, je suis pas en train de me dire, ma vie maintenant, c'est plus la même, je dois plus payer à Intermarché.
Non, mais je pensais au côté aussi, genre, je pense que parfois il peut y avoir, quand tu rêves à un objectif si longtemps dans ta vie et que tu donnes tout, tu y arrives et tu te sens un peu perdu parce que tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus d'objectif, j'ai atteint le truc que je m'étais donné et j'ai pas de plan B en fait.
T'as effectivement, je pense que t'as des champions qui sont comme ça, tu vois, qui, une fois qu'ils sont été champions du monde, hop, ils arrêtent leur carrière ou, enfin, on va dire qu'ils restent pas longtemps dans le très haut niveau et ils arrêtent parce que voilà, ils sont arrivés à leur objectif et peut-être que c'était pas ça leur, enfin, c'était un objectif, quoi. Et si tu veux, moi, la boxe, donc, qui reste quand même un sport majoritairement, un sport qui a touché, qui touche des, en tout cas pour le haut niveau, des populations en difficulté sociale, c'est par dépit, tu vois, on va vers la boxe parce qu'on se dit, bah, ça va être un moyen de gagner sa vie. Et dans mon cas, j'ai sacrifié, entre guillemets, ma vie pour en faire un, pour devenir boxeur. Et du coup, c'est ce que j'aime. Donc, je me suis pas dit, tiens, je suis champion, j'arrête. Non, au contraire. Je me suis dit, putain, j'ai réussi à faire ce que tout le monde m'a dit de ne pas faire et maintenant en vivre, allez vous faire foutre, je vais continuer encore bien longtemps. Tu vois, c'est plus ça. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire.
Ah non, mais vas-y, c'est un podcast où on parle comme on parle dans la vie, il y a pas de...
Ah bah, je parle pas comme ça dans la vie, justement, attention. Alors, je voudrais pas qu'on... Ah bah oui, c'est
juste
très grave.
L'effet Boys Club.
C'est parce que t'es... on est vraiment...
on est détente.
On est vraiment détente, voilà, dans ce podcast.
Je t'ai pas encore posé de questions très intimes, ça va venir.
Ah,
on y arrive. C'est quoi ton rapport avec, du coup, t'es ambassadeur de Movember, mais aussi de ton sport. C'est quoi ton rapport avec les jeunes mecs qui se lancent et qui ressemblent peut-être aux gamins que t'étais quand tu t'y mets? Qu'est-ce que ça fait de devenir le mentor qui a des abdos et qui est celui vers qui les petits gars regardent en mode « waouh ».
Eh ben, y a deux choses, tu vois. Alors, il y en a un, c'est peut-être pas une qualité. Quand je vois, alors ça, c'est pas chez les enfants, hein, mais quand on montre un jeune qui marche bien, qui fait des trucs bien, je suis un compétiteur, je me dis, oh le couillon, il veut m'imiter, il veut faire ça, eh ben, très bien, je vais faire mieux. Tu vois, donc c'est grave bien, parce que les jeunes me stimulent, me donnent envie d'aller encore plus loin, de faire des trucs super. Et je me sens en compétition, tu vois, dès qu'on me montre quelqu'un. Par contre, quand je vois un jeune qui est un peu qui sait pas trop vers où aller et que le sport semble être sa voie, je prends plaisir à lui dire écoute, il y a pas la boxe ou les études ou ceci ou ça ou cela dans la vie. Déjà, je lui dis déjà premièrement, n'écoute que toi et n'écoute que ton instinct. Tu me demandes un conseil, je peux te le partager, mais j'ai pas la science infuse et en plus chaque conseil est basé sur son expérience et on n'a pas la même expérience. Du coup, généralement, ce que je conseille aux gens, je dis, si tu as envie de faire tout ce que tu as envie de faire, fais-le. Si tu veux tout croquer dans la vie, croque tout, mais n'attends pas des autres qui te disent faut faire ça ou ça. Voilà.
Oui, parce que toi-même, t'as pas écouté tous les gens qui t'entouraient, quoi.
Non, forcément, mais encore une fois, les gens qui t'entourent, ils sont bienveillants, mais ils sont bienveillants par rapport à leur vision de la vie mais on est différents, donc on peut pas, c'est très difficile de conseiller quelqu'un. Enfin, faut prendre en compte beaucoup de critères dont on n'est pas objectif.
On arrive aux questions intimes. C'est parti.
Allez.
Est-ce que t'as quand même réussi à avoir une forme de vie privée et de vie affective et sentimentale?
Non, j'ai jamais eu de rapport, en fait, encore. Je suis nu de tout rapport. Je me préserve pour... Non, sans déconner.
Il se moque, vous ne le savez pas, mais moi, je le sais. Il se moque.
Et justement, si tu veux, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des filles dans des relations sérieuses et qui m'ont permis, justement, de me structurer plus que de d'être un peu foufou comme tu m'en parlais avec mon prédécesseur pour pas le citer, et du coup ouais, enfin j'avais un rapport. Alors après je sais pas quel genre de détails tu veux, mais c'est vrai que j'ai sacrifié aussi énormément de ma vie personnelle de couple et de ma vie sexuelle pour la boxe, parce que j'avais enfin t'en as sûrement entendu parler de cette de ce comment on peut appeler ça, de cette image qu'on a de la boxe où le boxeur fait abstinence avant le combat. Je sais pas, voilà, t'étais au courant. Et donc, quand j'ai commencé les combats, je m'étais dit, il faut que je fasse une abstinence super longue parce que je veux tout gagner, tu vois. Donc, j'ai raté beaucoup de mois de rapport, tu vois, avec tous les combats que j'ai fait. Et du coup, ça a un impact, oui.
Et du coup, ça, c'est un vrai truc, le fait de ta... Enfin, je pense que psychologiquement, ça marche, mais est-ce que c'est un peu scientifiquement prouvé que s'abstenir, ça...
C'est,
ça
je pense...
la testostérone.
Alors, en fait, j'avais regardé des analyses. La réalité des choses est... Mais encore une fois, tu vois, c'est difficile parce qu'il y a la réalité par individu, il y a la réalité sur 20 personnes, tu sais pas. C'est qu'un pic de testostérone, il met 48 heures à revenir. Donc, généralement, 48 heures avant le combat, t'as pas trop envie, mais moi je te parlais de break un peu plus que 48 heures, beaucoup plus, donc ça reste de plus de l'ordre du psychologique, de se rassurer, tu vois, de en fait, mais qui vont avec, en fait ça alimente aussi une certaine forme de c'est pas un cliché, tu vois, mais de morale, de sociétal, qui est no pain no gain, tu vois, et en vérité tu peux avoir de la réussite dans du plaisir.
Oui, heureusement.
Et heureusement, mais si tu veux, culturellement, on nous dit ouais, il faut travailler beaucoup pour avoir des résultats, il faut que ce soit dur, on a l'image de la dureté, tu vois. Et peut-être que en fait, on peut arriver à des résultats sans dureté. Donc mais après ça demande un travail psychologique que j'ai pas fait et où il faudrait que j'accepte et que je me dise bon, écoute, on peut faire la fête avec ma copine 2 jours avant le combat, tranquille. Et j'ai tellement... En fait, le combat est tellement important pour moi que je te dis, je sacrifie tout ce qui est à côté, en tout cas encore aujourd'hui, pour arriver au succès du combat. Et du coup, ça empathie sur ma vie privée.
Mais comment tu fais pour concilier... Parce que du coup, t'as eu des relations sérieuses, voilà.
Ouais.
Donc, relativement longues, j'imagine. C'était pas des coups d'un soir tous les jeudis.
Ouais,
comment
qu'il y
tu
avait pas
fais
de
pour... oui, en plus, t'avais pas de coups, donc bravo. Comment tu fais pour concilier ça dans une vie qui a déjà l'air tellement... pleine comme un œuf, quoi, où je me dis, bah, y a pas l'air d'avoir de la place dans ta vie pour. Pour un couple, quoi.
Bah, en fait, y a pas la place, on va dire, traditionnelle, tu vois, du couple dont on a l'image. Et j'ai la chance, en tout cas, d'être en couple avec une personne qui me comprend, qui m'écoute et qui, en fait, est très empathique dans la mesure où elle a compris que. On pouvait fonctionner ensemble uniquement parce que moi j'évolue dans mon activité et donc c'est triste hein, parce que du coup elle occupe une place un peu secondaire, tu vois, par rapport, enfin si on peut pas hiérarchiser, mais du coup je vais privilégier d'abord ma carrière et mais en même temps je vais privilégier d'abord ma carrière, mais je suis conscient, tu vois, que même si sur le ring je suis tout seul, je suis accompagné par, en vrai il y a tellement, c'est vraiment un effort collectif. Et tu deviens pas champion parce que j'étais motivé. Il y a tout un tas de choses derrière. Tu vois, t'as la famille qui t'a soutenu, t'as ta petite amie qui, en tout cas, des fois ça peut être un frein, mais en tout cas, moi, dans mon cas, qui m'a soutenu, qui est patiente, qui prend sur elle pour que je sois bien le jour du combat et donc elle va pas me faire une crise de nerfs. Et toute la partie sportive, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça que tu disais un sport collectif. C'est vraiment un collectif de personnes qui sont là pour que la performance se passe bien. Et c'est bien de les mettre en lumière avec cette question.
Cool. On a fait le tour des questions intimes. Tu peux
d'accord.
te détendre. Là, t'es un peu,
ouais,
un peu bras croisés et tout. A priori, je vais plus te
ça
poser
va, c'était,
de questions
c'était, gênantes. Il n'y avait pas trop de détails, quand même. C'était cool.
On a déjà parlé du fait que tu t'abstiens pendant longtemps avant les combats. Je pense que.
Et alors, d'ailleurs, en parlant d'abstinence, il y a des hommes un peu qui nous écoutent. Et même oui. s'il n'y a pas trop d'hommes et que c'est des femmes, eh bien, il faut inciter vos hommes à avoir des rapports sexuels. Donc j'avance, oui. Alors tu vas me suivre. En fait, en gros, alors attention parce que ça va décoiffer tous les soirs de la semaine pratiquement, puisqu'en fait, avoir des rapports sexuels réguliers, eh bien, diminuerait le risque de cancer des testicules. Mais vraiment, c'est prouvé qu'en fait, à partir de 21 éjaculations par mois, eh bien, il y a une diminution du risque de cancer. Et du coup, eh bien, pour les boxeurs, éviter les abstinences. Mais
oui,
pour,
je sais pas combien t'as de combats par mois, mais si tu fais plus de
non, j'en
40,
ai pas, j'en ai pas beaucoup, mais okay. Bon, ça c'est là on commence
t'es
à rentrer dans du, on est dans du détail là, c'est
on est dans
c'est
du
chaud,
calcul
là.
Mental
non,
qui est trop
perso. Tout ça pour dire que pour rebondir avec un peu de légèreté, oui. Mais que en fait une vie sexuelle au-delà de l'aspect parce que finalement, tu sais, c'est drôle parce que je travaille avec un ami et grand médecin qui s'appelle Alain Toledano, qui a un institut de l'après-cancer. Donc, en fait, ils accompagnent, l'Institut Raphaël, ils accompagnent les personnes qui sont touchées par le cancer au travers d'un parcours de soins au-delà du cancérologue avec un sexologue, un nutritionniste, du yoga, enfin, de l'art-thérapie, 25 000 trucs. Et si tu veux, lui, quand il voit un patient, par exemple une femme qui a eu un cancer du sein et quand tout est résolu, elle a eu sa rémission, etc., elle est soignée, quand il va la voir 3 mois plus tard, il va lui poser la question, est-ce que vous avez des rapports sexuels ? Et si elle répond non, elle n'est pas soignée. Parce que ça veut dire que sur le plan psychologique, elle est pas dans un...
Elle n'a pas repris une vie normale.
Elle n'a pas repris une vie normale. Et donc, eh ben, pour reprendre à ta question, je pense que... Tu vois, on parle de Movember, je parle du sport, mais l'activité sexuelle, enfin l'activité, le fait d'avoir des rapports sexuels protégés, évidemment, sains, etc., eh ben, vont participer eh bien, à prendre soin de la santé mentale des hommes et des femmes, d'ailleurs, aussi, en plus du plaisir, et vont surtout ben, permettre de limiter aussi, ce que je te disais, d'un point de vue physiologique, protéger certains cancers.
C'est trop bien que tu sois là parce que je pense que t'es un des premiers. Ouais, j'avoue, voilà. Non, en vrai, merci d'être là. Parce que déjà, merci pour ta confiance. T'arrives, tu te poses au micro, je te pose 1000 questions, on se connaît pas et tout. Donc, c'est toujours très chouette. Et en plus, je pense que c'est la première fois que je reçois un mec qui est bah, ambassadeur d'autres mecs qui vont pas très bien. Et du coup, comment ça s'est passé quand t'as. Donc, ça fait 2 ans que t'es ambassadeur Movember. La première fois que t'as été approché ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche? Comment t'arrives à défendre la santé mentale et physique des mecs, ce qui est quand même un sujet qui est très tabou, quoi.
Bah, si tu veux, t'as raison, c'est tabou, mais à la fois, en fait, donc comment ça s'est fait, c'est tout simplement avec par relation, j'ai rencontré une personne qui s'occupait de la Mathilde, pour pas la citer, qui s'occupait de la communication de Movember, et du coup, elle m'a parlé d'être ambassadeur, elle m'a expliqué un peu en quoi ça consistait, et encore une fois. Je te disais, dans mon cas, moi, j'étais un garçon très réservé. La curiosité qui m'a amené dans une salle de boxe et donc m'a fait pratiquer ce sport a changé ma vie. Attention, parce que j'allais faire des grands mouvements. Tu m'as dit le micro près de la bouche. Du coup, ben, l'activité sportive, elle m'a aidé, elle m'a construit, elle a fait de moi un homme et elle a guéri certains, on va dire, aspects de ma personnalité qui me gênaient, tu vois. Et donc, aujourd'hui, si par mon expérience, par mon parcours, le fait de prendre la parole et d'en parler, ça peut éveiller chez certains des parcours de vie et en plus changer de, enfin aider, je vois pourquoi je m'en priverais.
T'as plutôt raison. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux mecs qui nous écoutent et alors qui ont peut-être pas ta notoriété et tes contacts, mais qui se disent ok, moi aussi j'ai envie de sensibiliser ou d'aider les autres mecs dans ma vie et de leur parler de problèmes qu'ils peuvent avoir. Alors notamment les, en fait que ce soit la santé physique et sexuelle ou la santé mentale, c'est des sujets dont les hommes eux-mêmes ne parlent pas forcément quand ils sont concernés. Est-ce que tu aurais un conseil pour un mec qui écoute ça et qui se dit ouais, moi aussi j'ai envie de filer un coup de main quoi aux autres mecs?
Alors un conseil c'est d'aller sur le site Movember, comme ça, ils peuvent fr.movember.com. Ils vont pouvoir, comment je pourrais dire, s'informer sur cette association-là qui, justement, est concentrée sur la santé des hommes. Et le conseil que je pourrais donner, c'est aux hommes, c'est d'être peut-être davantage à l'écoute que dans le. D'abord parler, tu vois, essayer de se comprendre entre nous, parce que. Moi, je trouve qu'on apprend plus sur soi quand on écoute quelqu'un que quand on raconte sa vie. Du coup, voilà, c'est plus d'être à l'écoute entre nous et au travers des expériences de chacun, on avance et ça peut rassurer, tu vois, de se comprendre. Ah, toi aussi, tu vois, tu connais ce genre de conversation où on parle et libérer la parole, ça va permettre d'enlever ce tabou entre hommes. Donc, faut pas être gêné parce que généralement en tout cas, tu vois, des trucs de gamin quand t'es dans la cour d'école, donc à l'adolescence où tu veux pas avouer les choses, on s'invente tous des vies. Et en fait, progressivement, c'est dommage parce que les mythos grossissent parce que oui. Chacun rapporte un mytho, l'autre un autre mytho. Et en fait, si tu dis la vérité directe, c'est le plus courageux. Celui qui va dire la vérité, on va le regarder bizarrement. Et après, t'es obligé, tu te sens concerné, tu te dis ah ben ouais, en fait moi aussi finalement j'ai ce problème là, voilà, est-ce que, et donc ça, libérer la parole, vraiment ne pas avoir peur, je pense, de d'être jugé ou quoi.
Je pense que c'est un super conseil. J'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à tous mes invités pour essayer de tisser un genre de galaxie de modèles masculins positifs. Donc je voulais savoir si t'as une idée de mec, ça peut être un mec connu ou un mec de ta vie, ça peut être un mec réel ou un personnage de fiction, mais en tout cas un mec qui pour toi représente une vision positive de la masculinité.
Alors, en fait, il y a un homme qui représente pour moi, enfin, si tu veux, d'un point de vue image et d'un point de vue ben, aussi masculinité, qui est quand même un modèle, c'est David Beckham, tout simplement parce que c'était un athlète. Il prenait soin de son image, très viril, et en même temps il y avait sa femme derrière lui qui était son associé, donc c'est une manière aussi de montrer que la masculinité c'est pas un homme ou une femme, c'est un état d'esprit, et tu peux être très masculin en étant femme, tu peux être très féminin en étant homme, l'un n'empêche pas l'autre, et j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est l'histoire d'une femme qui justement avait une vision de comment communiquer au travers de son mari sur la masculinité, sur la virilité et sur plein d'autres sujets, et qu'ils ont réussi avec brio. Donc cet homme-là, pour moi, c'est un beau modèle de masculinité. J'ai bien dit ?
Oui, c'est ça. Écoute, c'est la première fois qu'on dit David Beckham, donc c'est cool. J'aime bien avoir des réponses inédites. On a eu Zidane aussi en sportif, pas mal.
Ah, pas mal, ouais, j'aime beaucoup.
Merci beaucoup Cyril d'être venu dans The Boys Club, c'était cool. Il y aura tous les liens dans la description pour vous renseigner sur Movember et pour retrouver Cyril à travers sa carrière, voilà. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sors le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.